L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, c'est une émission presque rituelle désormais, celle qui précède les journées nationales d'archéologie, peut-être même les journées européennes d'archéologie, on va voir ça avec nos invités. En tout cas, c'est sûr, elles ont lieu samedi et dimanche. Elles ont lieu partout en France et dans le Finistère notamment. Et on réalise en général cette émission avec nos voisins du Centre départemental d'archéologie et même cette fois aussi un peu avec l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, car nous accueillons aussi Anne-Françoise Chérel qui réside en permanence au FOU et qui travaille donc pour l'INRAP. Elle est céramologue. Bonjour.
Bonjour.
Et il y a aussi pour le Centre départemental d'archéologie Ronan Perennec. Bonjour.
Bonjour.
Médiéviste. Voilà, donc on va commencer avec vous Anne-Françoise déjà. Eh ben, la céramologie, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la céramologie a pour objectif d'étudier donc, les récipients qui sont trouvés au cours des fouilles archéologiques, récipients en terre cuite. Et on va essayer donc, de déterminer leur datation en fonction de leur forme et en fonction de leur décor pour aider l'archéologue à mieux comprendre l'évolution de son site. Alors, outre l'aspect chronologique, on peut essayer de comprendre à quoi servaient ces conteneurs, et notamment à travers une étude, donc l'étude type, ce qu'on appelle l'étude typochronologique, qui permet de bien dater les céramiques en fonction de leur forme. Et on va essayer également de déterminer leur fonction en fonction de leur forme, leur décor, leur contexte de découverte.
La céramologie, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est l'une des plus anciennes spécialités d'archéologie, parce qu'on dit archéologue, mais en fait, parfois ça veut rien dire, hein, on sait que vous vous spécialisez tous, non ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes, parallèlement au travail de terrain qui est effectué par les responsables d'opération. Donc c'est une spécialité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez récente pour ce qui concerne la période que j'étudie, donc la proto-histoire. Mais pour l'époque gallo-romaine, effectivement, on a eu un engouement des collectionneurs dès l'Antiquité déjà. Il faut savoir qu'on collectionnait déjà les objets. Essentiellement au 19e, il y avait la recherche du bel objet, mais qui correspondait souvent à des vases gallo-romains et moins des vases proto-historiques qui sont un peu plus, qui disons, attirent moins le regard.
Alors proto-historique, juste pour la période, en gros, c'est quoi ?
Alors proto-historique, donc moi je travaille plus spécifiquement sur l'âge du bronze, l'époque gauloise, en gros entre 2500 et 50 avant Jésus-Christ, avant la conquête romaine. Et donc je travaille sur ce qu'on appelle la proto-histoire récente. Et c'est vrai qu'on avait un engouement pour la recherche du bel objet au 19e, alors que la céramologie est une discipline quand même assez récente pour la proto-histoire qui date plutôt des années 80, parallèlement à l'essor des fouilles archéologiques.
Et depuis quand est-ce qu'il y a des céramiques dans l'humanité ?
Alors les céramiques apparaissent à l'époque néolithique. Et évidemment, même en Bretagne, on va en retrouver ponctuellement. Donc, elles sont étudiées également par des collègues qui travaillent sur ces périodes plus anciennes.
Et oui, il n'y avait pas de céramique du tout au Paléolithique.
Non, il y avait essentiellement une culture matérielle à base de lithique, enfin de roches travaillées, mais on n'utilisait pas encore la céramique.
Ouais, il pouvait y avoir des récipients en pierre éventuellement, quoi.
Oui, des récipients en pierre et très certainement peut-être en bois ou en vannerie.
Et les premières céramiques, donc, on les a retrouvées dans le monde, je ne sais pas, on les a retrouvées où, en gros ?
Alors, c'est un vaste débat.
Ah bon ? D'accord, ils sont jamais d'accord entre eux, les archéologues, c'est génial.
Un peu compliqué, mais bon, c'est vrai que, je ne sais pas, Ronan, peut-être...
Une idée, Ronan. Non, on va dire que c'est encore les Chinois.
Je crois qu'en Chine, il y a des trucs très, très anciens. Ouais.
En Chine, en Mésopotamie, enfin, c'est plutôt... disons que là où on a eu des fouilles précocement, on connaît mieux aussi ces cultures matérielles, mais effectivement, c'est plutôt...
Nous, on arrive tardivement dans la course.
Ouais, on arrive plus tardivement.
Ouais. Oui, et donc, quand on parle de céramique, ça veut dire qu'il y a eu, collecte de terre et travail de terre pour former un objet. En gros, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'on appelle céramique, un récipient céramique, c'est un récipient en argile auquel on a rajouté un dégraissant pour éviter qu'il éclate à la cuisson.
Du sable, par exemple.
Du sable, ça peut être du quartz, tout ce qu'on va trouver sur place. Et pour que l'objet puisse tenir pendant la cuisson.
Il y a forcément cuisson, parce que ça peut marcher des argiles qui sèchent.
Chez nous, compte tenu du climat local, c'est peut-être mieux de cuire. Donc effectivement, on parle de cuisson, mais on avait certainement des objets comme les pesons qui pouvaient être peut-être plus très peu cuits ou légèrement cuits.
C'est quoi les pesons ?
Alors les pesons, ce sont des éléments, donc des objets qui sont destinés au tissage et qui permettent de tendre le fil du métier à tisser.
Oui, d'accord. Voilà. On voit, ça pèse quoi. Et,
ouais.
D'accord. Et alors pour avoir une idée aussi de tous les usages, parce que nous c'est vrai que la céramique, bon maintenant c'est vrai qu'on s'en sert de moins en moins, on va dire en termes utilitaires peut-être, enfin sauf des céramiques industrielles, mais nos ancêtres, ils s'en servaient à beaucoup de choses. Quels étaient les usages les plus courants pour...
Ouais. Alors, au niveau des usages, donc c'est vrai que ce qu'on retrouve le plus sur les sites archéologiques, ce sont bien évidemment les dépotoirs qui contiennent énormément de tessons de céramique cassés. Donc, ce sont les poubelles de l'époque. Hein. Et donc, on va en retrouver énormément qui servaient à la vie domestique quotidienne. On va en retrouver également dans certains artisanats qui nécessitent l'utilisation de céramique. On peut penser par exemple au travail textile pour faire décanter, laisser décanter des tissus ou autres, ou pour la coloration, même si on n'a pas vraiment de témoignage direct pour le moment. On va s'en servir évidemment pour le stockage de la nourriture, pour la présentation de la nourriture, pour également la préparation, la cuisson. Et les autres usages de l'argile vont nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces objets vont être utilisés dans d'autres artisanats, par exemple l'artisanat textile. Et globalement, ce sont les utilisations les plus courantes. Mais par exemple, en métallurgie, on sait qu'on utilise un petit peu de céramique. On peut les utiliser aussi pour la cosmétique. Par exemple, pour conserver des onguents ou des sortes de crèmes de différents types. Donc de plus en plus, on va s'intéresser au contenu des céramiques, notamment à travers les analyses biochimiques de contenu.
Oui, c'est ça. C'est là qu'on en arrive au travail précis du céramologue, de la céramologue. Donc vous, en fait, d'abord vous identifiez la céramique. Enfin, quand vous trouvez quand on vous apporte des débris de céramique, qu'est-ce que vous faites en premier ?
Alors en fait, pour ce qui concerne toute la chaîne opératoire, donc, il faut savoir qu'on va retrouver la céramique dans une structure bien définie. Ça peut être un trou de poteau, un fossé d'enclos, etc. Et donc, le premier rôle du céramologue, ça va être d'essayer de comprendre l'évolution des structures et du site à travers la datation des céramiques. Parce que quand on va sur un site archéologique, on croit que, quand on est un petit peu néophyte, que toutes les structures sont contemporaines, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, on va essayer de dater le phasage, ce qu'on appelle le phasage du site. Et donc, ce premier travail va nous permettre d'avoir une trame archéologique. Les céramiques vont être bien datées d'après leur forme, leur décor.
Donc, toujours, ouais, vous reconnaissez, vous avez appris par cœur, voilà, toutes les formes,
alors,
toutes les
fait,
époques, c'est ça.
Il faut savoir que pour l'âge du fer, hein, ce qui est un petit peu ma spécialité, on date à 25 ans ou 50 ans près. Donc, c'est une datation très, très précise. Qui nous permet vraiment d'avoir des éléments assez tangibles. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Parce qu'on sait exactement quelle forme, à quelle époque avaient les céramiques et quels étaient les matériaux utilisés.
On a des catalogues de formes qui nous permettent, qu'on a établis à plusieurs, notamment pour la Bretagne, et qui nous permettent de les dater très précisément. Alors ce travail de datation a été effectué par comparaison avec... différents ensembles céramiques et la composition de ces différents ensembles. Et notamment, ils ont pu être calés chronologiquement par exemple, avec la présence d'amphores qui nous ont permis, ou de monnaies qui nous ont permis de les dater plus précisément.
Oui, tiens, il n'y avait pas de monnaie en céramique, juste petite question.
Alors, pas de monnaie en céramique, mais des jetons qui pouvaient servir soit pour le jeu, soit peut-être pour les votes, etc. Mais non, on n'avait pas de monnaie en céramique.
Et oui, si vous avez parlé des amphores, ça me fait penser qu'on avait fait une émission avec Ninoc Jaouen sur les amphores, parce que ça, la céramique servait aussi de container de transport. Quoi.
Tout à fait, voilà. Exactement.
Donc, vous datez grâce aux petits morceaux de céramique que vous trouvez sur les sites.
Oui, complètement.
Et puis sinon, est-ce que vous faites, des puzzles?
Alors après, dans la chaîne opératoire, donc, on récupère la céramique sur le terrain. Après, on va la laver en laboratoire. On va la laisser sécher. Et après, effectivement, on joue toute la journée, on fait des puzzles en restitution 3D. Et après ce travail, on va effectuer le relevé de la céramique au crayon à papier, sur du papier calque. Et soit la même personne, soit une autre personne plus spécialisée va numériser le dessin, donc réaliser un relevé vectoriel.
Ça, c'est assez récent, j'imagine, ces techniques-là.
Alors ça, c'est plutôt le travail des dessinateurs, hein, spécialistes de la PAO, DAO, mais les céramologues peuvent aussi le faire si besoin. Et après, donc, y a tout ce travail de datation qui va aider l'archéologue à mieux se repérer au niveau du phasage du site. Et indépendamment, il y a le travail du céramologue qui peut continuer, notamment à travers des analyses de contenu. Donc ça, c'est très nouveau. Hein. Depuis quelques années, on développe ce qu'on appelle la chimie organique appliquée au contenu archéologique. Et ce qui nous permet de connaître un petit peu, mieux connaître l'alimentation des Gaulois.
Donc vous grattez les céramiques, c'est ça? Vous récupérez des petits éléments et puis vous les faites analyser? Enfin, c'est peut-être pas
oui.
Vous qui les analysez.
Alors on fait un prélèvement, donc ça c'est moi qui le réalise, donc un prélèvement à l'aide d'un scalpel. On prélève un tout petit peu, on gratte un petit peu la céramique. Et évidemment, on fait attention d'utiliser du métal et non pas un élément organique. Sous peine de fausser les résultats.
Pour ne pas contaminer, quoi.
Voilà, pour éviter de les contaminer. Sachant que le plastique, déjà, a tendance à contaminer les résultats. Et l'idéal, c'est de mettre de l'aluminium autour. Mais c'est pas toujours le cas pendant la fouille, c'est pas toujours faisable. Et donc, le prélèvement est envoyé auprès d'un collègue chimiste qui est spécialiste, qui me renvoie ses résultats. Et ensuite, tous ces résultats doivent être recontextualisés au niveau local et remis en contexte à partir des données qui existent sur place, des données environnementales notamment.
Mmh. Oui, alors par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui mangeait?
Alors concrètement,
pour vous,
on va retrouver par exemple, au niveau des résultats des analyses organiques, on peut retrouver les marqueurs des graisses animales, ruminants, non ruminants. On va retrouver les marqueurs des produits laitiers, également les marqueurs du poisson, des fruits, des jus de fruits fermentés ou non. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Les cires également, les cires végétales. Bref, on a tout un panel.
C'est quoi, par exemple, une cire végétale?
Alors, les cires végétales, donc, c'est un petit peu compliqué parce que les cires végétales, on les retrouve un petit peu sur tous les végétaux. Mais là, par exemple, les analyses biochimiques vont permettre d'identifier certaines céréales particulières comme le millet. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais d'un autre côté, si on confronte ces données aux données palynologiques, donc à partir de l'étude des pollens, les palynologues, eux, vont nous dire qu'on a des céréales, mais ils ne vont pas forcément pouvoir préciser les données. Donc le fait de justement confronter toutes ces données nous permet d'avoir des données de plus en plus fines en confrontant les différentes disciplines.
Et donc, les aliments que vous avez cités, donc, c'était ce que mangeaient les Gaulois ou c'est plus ancien ou...
Alors, c'est ce que mangeaient les Gaulois, mais là où on a eu des surprises, par exemple, c'est de mettre en évidence les marqueurs des jus de fruits fermentés à partir du raisin. Alors là, c'est-à-dire qu'on avait, en gros, un vinaigre ou un vin qui a été produit au moins à l'époque gauloise avant l'arrivée des importations romaines et même dès l'âge du bronze ancien, puisqu'on a des marqueurs dès l'âge du bronze ancien.
Et à quel endroit ce vin breton gaulois ?
Alors, ce vin breton, ou vinaigre ou piquette, hein, ouais, parce que je pense que de toute façon, le vinaigre, hein, on le voit bien en Méditerranée, était recherché hein, pour l'alimentation quotidienne, hein, puisque l'eau était facilement contaminée. Mmh.
Et puis ça conserve un peu les aliments
oui,
aussi.
Oui, c'est ce qui permet de conserver les aliments et c'est aussi un produit aide-moi antibactérien.
Enfin, ouais, ça les infecte.
Exactement.
Tout simplement.
Donc en fait on en a retrouvé, mais il faut savoir justement après une analyse palynologique plus poussée et carpologique, donc cette fois-ci l'étude des graines, on s'est rendu compte que on avait des témoignages de la vigne sauvage localement en Bretagne dès la fin du néolithique.
En Bretagne en général, quoi. Enfin, vous avez
voilà,
de...
en Bretagne en général, ouais. Mais on en a énormément. On a beaucoup de témoignages aussi, par exemple, dans l'embouchure de la Loire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de superposer un petit peu les données actuelles, à savoir les vignes locales qui poussent actuellement en Bretagne et les témoignages anciens, avec à chaque fois une certaine récurrence dans les lieux de croissance de cette vigne sauvage, notamment près des cours d'eau, dans des endroits assez abrités, bien exposés au soleil. On en a par exemple des témoignages dans le coin de Quimper, si mes souvenirs sont bons.
Là où il y a la vigne du Braden.
Sachant qu'actuellement, il y a les vignes du Braden.
D'accord,
voilà, donc c'est intéressant. On en a aussi vers la baie de Saint-Brieuc, enfin dans des endroits à chaque fois qui sont plutôt bien exposés et à l'abri.
Et justement, à Landévennec, je crois qu'il y a aussi une vigne maintenant, Renan Pérennec. Est-ce qu'il y avait du vin du temps des moines, enfin au Moyen-Âge plus...
Oui, il y a du vin au Moyen-Âge.
Ah ouais, d'accord.
Pas que à Landévennec, hein, mais c'est... Mm-hmm. Oui, il y a du vin au Moyen-Âge. Donc nous, on a des traces sur le site oui, de pressage. Enfin, on a du moût de raisin pour le 7e siècle, par exemple.
Mm-hmm. D'accord. Et alors, Anne-Françoise Cherel, elle travaille pour l'INRAP, mais elle est basée au Centre départemental d'archéologie. Ça veut dire que le Centre départemental d'archéologie fait appel à elle régulièrement ou
pas... En fait, on a des échanges entre chercheurs. C'est extrêmement intéressant. Et puis, pour nous, c'est bénéfique parce qu'on n'a pas de séromologue de... pour l'historienne. Donc, même si elle ne peut pas faire l'étude, elle peut au moins nous aider.
Parce que vous, comme
jeter un coup d'œil rapide.
Ouais, c'est ça. Parce que vous, c'est le Moyen Âge plutôt, donc il vous faut plutôt une céramologue ou un céramologue du médiéviste.
Moi, c'est le Moyen Âge, mais il peut y avoir des interventions où on a de la céramique proto-historique. Quoi.
D'accord.
Alors, on a des collègues qui se forment hein, sur, mais c'est toujours bien d'avoir pour l'âge du fer un coup d'œil expert. Hein.
Non, on a aussi beaucoup d'échanges pour ce qui concerne l'outillage, notamment, qui a peu évolué depuis l'époque gauloise, hein, on peut le dire, jusqu'aux années, jusqu'au 20e. Hein. Donc, du coup, on a des échanges réguliers, puisque je travaille aussi sur ce qu'on appelle l'instrumentum. Donc, c'est essentiellement l'outillage en fer gaulois.
Et là, il n'est pas question de céramique.
Plus question de céramique, d'accord, cette fois-ci. Et donc, on travaille régulièrement. Je vais voir Ronan pour lui demander son avis sur certains objets qui me posent problème.
Parce que les objets n'ont pas toujours une... Enfin, ils sont assez corrodés, ils n'ont pas une forme... Enfin, voilà, ils sont parfois...
Ouais, surtout en métal, ouais, c'est
pas
sûr.
Pas terrible, quoi. Mais on peut avoir, pour d'autres périodes, en fait, la même chose. Alors, ça ne donne pas une idée de datation. On ne peut pas... Enfin, faire quelque chose d'anachronique, mais on se rend compte qu'il y a des formes qui, une fois que la forme est parfaite, elle change très très peu en fait dans le temps.
D'accord. Et les céramiques, alors c'est pareil, c'est encore une question un petit peu trop vaste sans doute, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de cultures céramiques qu'il y a eu dans le monde depuis que l'homme est l'homme ?
Alors, culture céramique, non, c'est impossible à dire. Hein. Il y en a eu beaucoup trop. Et en plus, ce qui est intéressant à savoir, c'est que même pour l'époque gauloise en Bretagne, on a à chaque fois des traits spécifiques culturels en fonction de chaque entité géographique. Donc la céramique de Quimper ne sera pas la même que celle qu'on va retrouver dans, par exemple, vers Brest à l'époque gauloise. Ah oui. Donc on a vraiment des territoires qui, avec des marqueurs matériels un petit peu spécifiques d'une production. et ce qui permet d'ailleurs de raisonner en termes parfois de diffusion de production.
C'est la question que j'avais posée. Comment est-ce que par exemple nous qui sommes au bout du monde, est-ce que les cultures céramiques on les a eues plus tardivement ou est-ce qu'au contraire
alors,
on a été
alors pas du tout. On n'est vraiment pas dans le particularisme breton hein, tel qu'on pourrait le penser ou tel qu'il a été avancé dans les années 70, 80. Et en fait, on se situe vraiment dans une entité bien plus globale, avec forcément des particularismes entre régions, entre territoires, parce que le terme de région, pour cette époque-là, n'est pas approprié. Mais on a vraiment des territoires avec effectivement des marqueurs identitaires forts et culturels qui peuvent passer par la céramique, mais au sein même de ces territoires, on a aussi des variabilités au sein même d'un territoire.
Donc ça, ce qui laisse quand même voilà, entrevoir que les savoirs, les cultures se diffusaient rapidement finalement.
Tout à fait. C'est vraiment primordial d'avoir ça en tête parce que on se rend bien compte que les échanges étaient très très importants. On le voit à travers la culture matérielle également, par exemple par le biais de certains objets qui sont échangés dès le néolithique sur des distances très très importantes, ou alors pour l'âge du fer par exemple, avec notamment l'importation ou la fabrication en fonction de la période de perles en verre ou de bracelets en verre. Donc,
Et la céramique aurait pu être un support d'écriture, ça n'a pas été le cas
Alors pour l'instant, on n'a rien retrouvé qui va vraiment dans ce sens pour l'époque gauloise en Bretagne, mais on espère un jour peut-être.
Ça peut être le cas parce qu'on écrit sur des tablettes d'argile ou de cire pour économiser le papier ou le parchemin, mais tant que c'est pas cuit, on peut pas les retrouver. Tant que ça n'a pas, parce qu'on n'est pas dans un climat hyper sec, on n'est pas en Égypte, donc on peut pas retrouver de la terre crue.
Ouais, parce qu'on suppose qu'ils utilisaient la terre crue pour écrire. Enfin, s'ils se servaient de céramique.
Peut-être plus la cire, mais il y a pas de raison qu'un matériau qu'on se prive d'un matériau. À Novgorod, on écrit sur des rouleaux de bouleau, d'écorce de bouleau. En fait, dès qu'on a un matériau qui se prête à l'écriture, on l'utilise.
Mais on n'a pas forcément besoin de cuire la céramique pour l'utiliser pour écrire, quoi.
Non, au contraire, ça permet de l'effacer.
Mm-hmm.
En fait, ça serait plus de l'argile plus que de la céramique.
Oui, d'accord. Alors, puisqu'on arrive presque à la fin de l'émission, on va quand même parler des journées de l'archéologie. Alors, moi, je disais JNA, Journée nationale, mais c'est devenu les journées européennes entre-temps, non, peut-être
C'est les journées européennes, maintenant, oui.
Mais il faut dire JEA, alors.
JEA.
Et dans le Finistère, où on a toujours beaucoup, beaucoup à raconter en matière d'archéologie, alors qu'est-ce qui est prévu déjà du côté du centre départemental d'archéologie?
Pour le centre départemental, Roland Bourgault fait une présentation des résultats de son intervention archéologique sur la villa gallo-romaine de Caradennec à Saint-Frégan.
On peut réécouter les émissions aussi qu'on
a
faites.
Le vendredi 17 juin à 18h à la salle multifonction du bourg de Saint-Frégan.
À Saint-Frégan, d'accord.
À Saint-Frégan,
ok. Ouais. Donc dès ce vendredi, en fait.
Voilà. Bon. Oui, parce que c'est les journées européennes, c'est le vendredi aussi, dimanche.
Ouais. C'est vrai.
Ouais. Donc Muriel Filly et Anne-Claire Gourlet font aussi une conférence sur le néolithique à l'âge du bronze en Bretagne. Le vendredi 17 à 18h à la maison des associations de Cléder.
Donc là, vaste sujet, là, pour le coup.
Oui. Donc Johan Dieu et Jean-Charles Aramon, à la villa gallo-romaine du Pérennou à Plomelin, donc présentent les recherches en cours le samedi et le samedi 18 et dimanche 19, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Donc là, on vient sur site.
On vient sur site,
on n'a pas besoin de réserver ou
non.
Quoi. Non. D'accord.
Et puis moi, je fais une conférence le samedi 18 à 15h à La Roche-Maurice.
Au château, je suppose.
Au château de La Roche-Maurice. Avec une petite visite des parties qui viennent d'être restaurées et qui sont accessibles au public.
Ah oui, c'est des nouveaux secteurs, entre guillemets, non? Est-ce qu'il y aura du nouveau à voir par rapport à l'année dernière, par exemple?
En tout cas, ça a été, c'est libre. Enfin, il y a un accès plus facile et les structures ont été consolidées. Les petits panneaux.
Bon. Il y aura des nouvelles informations.
Alors,
on
n'a pas accès à tout le château parce que c'est en cours de fouille, mais on a accès à une moitié de l'enceinte basse qui est en cours de fouille actuellement.
Et là, cet été, vous allez fouiller quoi, par exemple?
Cet été, je fouille la partie de l'enceinte basse qui se trouve sous le donjon, dans les...
Qui n'a pas été fouillé encore.
Qui n'a pas été du tout fouillé.
On peut y avoir des choses intéressantes.
Donc, on a un logis qui est là dès le 14e. un grand logis qui couvre quasiment toute l'enceinte. Et puis après, c'est l'articulation entre les courtines, enfin les remparts et puis la chemise d'un ouvrage qui protège la tour-porte qui donne accès à l'enceinte haute, en fait. Et puis l'articulation de tout ça avec les bâtiments qui nous manquent.
Très bien.
Qui nous manquent cruellement.
Bon. Et donc ça sera en un été, non? Ou il faudra peut-être
là,
deux étés pour
je fais
ça,
cet
hein.
été, puis peut-être l'année ouais, c'est après. Ça. Mais...
Donc on verra si on fait une émission à la prochaine saison ou si on attend la saison d'après, en fait. Quoi. D'accord. Puis sinon, il y a plein d'autres rendez-vous. Je crois qu'il y a Vorgium, c'est ça?
Après, oui, c'est ça. Il y a le musée départemental breton. Il y a Vorgium qui fait le samedi 18 et dimanche 19 après-midi. Donc,
des même, animations.
Des animations et une inauguration d'exposition. Le musée de l'ancienne abbaye qui propose aussi des démonstrations d'archéométallurgie.
Allant des Vénèques.
Oui, j'ai pas dit ça.
Ouais.
Donc le samedi 18 de 14h à 17h et des conférences aussi sur l'actualité des collections du musée, samedi 18 et dimanche 19 après-midi. Et à Médès-Régan aussi, le centre d'interprétation fait une activité, un atelier sur la poterie néolithique, samedi 18 de 14h à 17h.
Bon, Médès-Régan, là, c'est en Cap-Cisin.
Et le centre est visitable les vendredis, samedi, dimanche.
Donc les journées d'archéologie européenne, d'archéologie
après,
qui ont lieu...
Ouais, après, il y a tout un tas d'autres activités bon, ouais. qui sont payantes, mais qui se trouvent sur le site des JEA, en fait.
JEA, ouais. Bon, merci en tout cas à tous les deux. Puis on retrouvera le Centre départemental d'archéologie, puis peut-être l'INRAP aussi à la saison prochaine dans les émissions de Radio-Évasion.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.